Et vous écoutez France Culture. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, Ludovic de Burn.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre.
Mauvais genre, heureux d'accueillir en ce samedi un de ses dessinateurs fétiches, Ludovic de Burn, mais ce à l'occasion de la sortie chez Casterman de son album Epiphania, chronique en second temps d'émission du dernier album de Blotch et de l'exposition Pascal Somade à la galerie Art Factory. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre consacré ce soir à la bande dessinée, n'est-ce pas, avec qui je serai en compagnie de Ludovic de Burn.
Bonsoir.
Ludovic de Burn, qui est notre invité depuis 2003, je crois.
Mais je crois bien.
C'est, ouais. C'est une vieille histoire.
Une vieille histoire d'amour.
Voilà, 2003, c'était pour quoi? Quel album déjà?
C'était
je ne sais plus.
Ludologie.
Ludologie, et puis.
Ma maman était derrière les ondes et elle a frémi lorsque vous avez posé cette question fatidique. Alors, le problème avec la nourriture, c'est votre maman.
Aïe, aïe, aïe.
J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça.
Mauvais genre, l'émission qui fait frémir les mamans. C'est très bon signe. Est-ce que votre maman frémit en écoutant l'émission, Sixtine Audebert?
Oh là là, maman frémit intensément.
Ah bah, oui, oui.
Ah oui, toujours. Que vous dire de plus, François?
Mais vous avez une actualité?
Oui, je suis en pleine recherche active de costumes. Ah. Vous me direz, c'est un peu tôt, mais pour Halloween, qui est maintenant dans 2 semaines, parce que je vais aller à 2 soirées différentes, et notamment la Démonia Scary Party, qui est la soirée fétiche annuelle de la boutique Démonia, et où il y a le dress code obligatoire avec latex, vinyle, ou cuir, ou simili-cuir, ou lycra laqué, c'est-à-dire le wet look intégral. Et le mardi 31 octobre, j'irai aussi à la Glitter and Doom, qui est la soirée du cirque électrique, un burlesque show, cabaret avec contorsionniste possédé et magicien sadique. Voilà, ah, je vous recommande hautement.
Merci, mais je vois que maman n'a pas fini de frémir, ce qui est une excellente chose, je le rappelle. Antoine Guillot, vous serez aux soirées cuir latex vernis le 31.
Je me posais la question, effectivement, de quel déguisement endosser pour Halloween, mais après avoir lu Epiphania, le faune s'impose. Donc voilà. Je suis en train de me faire allonger les pieds et de me faire pousser les cornes.
Voilà, les photos en témoigneront sur notre site et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Maintenant, l'heure est venue, écoutez, nous sommes samedi, d'ouvrir rituellement l'encyclopédie pratique des mauvais genres avec Céline ce soir. Quelle est la lettre?
Je propose la lettre O, comme Ovidie.
Oh, oh.
Je crois qu'on sait tous dessiner une bite. Concrètement, je veux dire, ça nous est tous arrivé d'en griffonner une, bourrée ou pas, je ne sais pas, mais voilà, on sait tous en dessiner une. Le sexe masculin est surreprésenté. On sait tous à quoi il ressemble. Pourtant, la vulve, c'est quelque chose qui reste complètement tabou. Moi, je vois, j'ai des copines autour de moi qui refusent de se regarder la vulve, qui refusent même de la toucher. Elles acceptent de la laver, mais c'est tout. Et c'est pour dire à quel point il y a quelque chose qui relève de l'ordre de la hantise, je crois vraiment, du sexe féminin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des filles n'emploient pas le mot vulve, d'ailleurs. Souvent, il y a même une confusion. Elles parlent de leur vagin. J'ai envie de leur dire, mais ton vagin, il n'est pas là. Il est à l'intérieur. Ça, c'est ta vulve, c'est pas ton vagin. Et ça, je trouve que ça en dit long, je dirais, sur tous les tabous qu'il y a encore autour des corps féminins et des sexualités féminines.
Voilà un livre qui est à lire comme un manifeste. Rien que le titre libre claque comme un étendard, libre de s'affranchir des diktats sexuels, libre de vivre avec son corps tel qu'il est, en dehors des notions de performance, de normes et de mercantilisme. 15 ans après avoir publié Porno Manifesto, livre féministe pro-sexe qui dénonçait les idées reçues sur le cinéma pornographique, Ovidie revient avec ce nouveau manifeste joyeux et militant qui est tout sauf un guide de conseils sexuels, mais plutôt un anti-guide composé des textes d'Ovidie et des dessins et bandes dessinées de Digli, qui en fonction des chapitres peut devenir une ode au sexe féminin dont l'anatomie est encore si mal représentée.
Il y avait eu cette polémique autour du livre de Michel Simès qui représentait très bien le sexe du petit garçon. On voyait bien tous les détails, il n'y avait pas de problème, tout était nommé. Ça aussi, c'est important, hein, parce que ce qu'on ne nomme pas n'existe pas. Donc là, tout était bien nommé. En revanche, sur la représentation de la petite fille, on voyait une zézette avec juste une fente et l'appareil urinaire. Et donc finalement, tout avait absolument disparu. Et c'est quand même extrêmement intéressant. Ça en dit long. Enfin, comment est-ce qu'on peut grandir quand on est une petite fille dans une totale méconnaissance comme ça de notre appareil génital? Je crois que le sexe féminin fait encore peur. Et il y a qu'à voir, par exemple, la non-représentation des fluides ou des sécrétions qui sortent du sexe féminin. On le voit par exemple avec tout le tabou autour du sang des règles. Dans les publicités, le sang des règles est bleu. Mais on peut même voir par rapport aux films pornographiques. Dans les films pornographiques, on peut voir des dilatations, des choses incroyables, mais jamais on va voir ne serait-ce que 3 gouttes de sang de règle, ou jamais on va voir ne serait-ce qu'un peu d'odorline, quoi, un petit peu, quelques gouttes blanches comme ça. Ça n'existe pas. Donc c'est très intéressant de voir à quel point non seulement la vulve est sous-représentée, mais en plus ce qui sort de la vulve, ce qui sort du vagin, est toujours source de dégoût.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Nommer. Voilà, déjà donner le bon nom. Voilà, c'est une vulve, c'est pas un vagin, c'est pas une zézette, c'est une vulve. Cette vulve, elle est composée de grandes lèvres, de petites lèvres, d'un clitoris, etc., etc. Et puis le représenter. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je vois pas pourquoi dans les manuels scolaires on représente le scrotum, on représente le prépuce. Enfin, je veux dire, on représente absolument tous les détails de l'anatomie masculine. Mais là, voilà, on peut dire, voilà, ça c'était grande lèvre, ça c'était petite lèvre, ça c'est ton clitoris. Tout de suite, on a l'impression que dès qu'on emploie le mot clitoris, tout de suite, ça renvoie à la sexualité immédiatement et non pas à une réalité biologique. Et donc, du coup, c'est panique à bord, quoi. Sexualité, sexualité des filles, jouissance des filles, clitoris, orgasme. Oh là 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 là, mon Dieu, faut surtout pas leur en parler. Comme s'il fallait leur cacher ça, comme si on leur dévoilait l'existence de ce truc, tout à coup, je sais pas, elles allaient rentrer dans une sorte de sexualité frénétique, incontrôlable. Enfin, c'est super bizarre. Moi, j'ai du mal à comprendre vraiment tous ces mécanismes-là.
Libre est un livre d'Ovidie avec les dessins de Digli, deux femmes qui entendent tordre le cou aux idées reçues et qui remettent la sexualité dans une perspective réjouissante, loin des diktats de la norme, la mode, le « il faut que », « y a qu'à faire », etc. À découvrir aux éditions Delcourt, collection Tapas.
Merci Céline pour cette entrée haut comme haut, Ovidie, de l'encyclopédie pratique des mauvais gens. Ludovic de Boehm, il y a des parties du corps comme ça qui vous avez du mal à dessiner. Apparemment non.
Moi j'ai commencé assez tôt à dessiner un sexe masculin. C'était, je devais avoir 15-16 ans, c'était sur mon sac. Ça s'appelait le Zizi de Pif et mon sac d'école. J'étais assez fier et en même temps honteux d'arborer ce Zizi. Puis ensuite, un petit peu plus tard, vers 17 ans, j'avais une carte de membre de club, à peu près de tous les clubs parisiens, parce que j'étais héro-dancer et je me peignais des bites sur le torse nu. Voilà, c'était une autre façon de faire exister ma partie masculine aux dépens de ma partie féminine.
Mais donc, du coup, vous n'avez pas dessiné de vulve?
Alors,
avec toutes vos cartes, vous n'aviez pas une carte spécialisée dans le dessin de la vulve et de ses secrets?
Ça a été un long mystère. C'est vrai qu'il y a Antoine Guyot montre une femme avec les jambes écartées dans mon dernier livre.
Mais une vulve qui est placée justement devant sa vulve qu'on ne voit pas.
Oui, mais là, le phylactère dit que se passe-t-il?
Mais on ne le voit pas.
Je pense que j'ai dû dessiner des... Si, j'ai dessiné des vulves, mais si vous voulez tout savoir, je pense que j'ai dessiné des vulves avec des corps éventrés, des bébés sortis. Et... Enfin, je pense que je suis capable de dessiner tout ça. Ouais, si. Mais par contre, je suis d'accord, il faut nommer les choses.
Ce qui vient d'être fait, je rappelle bien évidemment que l'encyclopédie pratique des mauvais genres, c'est également et aussi un livre paru aux éditions Nada, n'est-ce pas, chère Céline, et qu'on pourra y retrouver.
Les éditions anarchistes Nada.
Voilà, le Nada, le rien.
Les anarchistes esthètes qu'ils sont.
De Chabrol et de
Romain. Et puis, comme on parlait de soirée latex, moi, je vous propose quand même demain d'aller à la Halle Saint-Pierre à Paris pour voir deux personnes absolument délicieuses. Donc, il s'agit de Noël Herpe qui est dans mon livre à la lettre N comme nylon et qui nous fera un discours et peut-être une démonstration sur la chaleur et la chaleur moite du collant pour homme. Et puis, il y aura aussi Karen Chessman qui, elle, sera tout en latex rouge. Donc, ça devrait plaire à Sixtine et lui donner peut-être des idées pour ses futures soirées et qui, elle va donc va faire une performance et Karen est un homme qui est une femme qui est un cheval. Donc je vous promets, je pense, un moment joyeux en perspective.
Il faut retenir sa place heures. Quand même.
Oui, il vaut mieux réserver, hein. C'est gratuit, mais la jauge est petite, donc n'hésitez
la
pas
petite.
À appeler la Halle Saint-Pierre et puis j'espère à demain pour les Parisiens ou ceux qui peuvent passer
voilà,
à Paris.
Voilà, venez nombreux à pied, à cheval, c'est le cas de le dire, ou en voiture. La jauge est petite, mais le désir est grand, comme à mauvais genre. Il est temps maintenant pour nous de prendre la direction d'Epiphania, le dernier album de notre invité de ce soir à mauvais genre, donc sur France Culture, Ludovic de Berme. Quelques mots sur ce que nous entendons, écoutons, Ludovic de Berme.
Oui, c'est une musique de mon groupe duo avec Fanny Michaelis, Father Kid. Voilà, Father Kid, c'est le nom du groupe, ça s'appelle Come to the War Game.
Comme de Wargame, le groupe Father Kid, formé par Ludovic de Berme et Fanny Michaelis, que nous avons reçu ici même récemment pour son dernier album, Le Lait Noir, effectivement, Antoine. À quoi ressemblent les shows Michaelis de Berme, Sixtine de Berme?
Oh là là, c'est très intense. Fanny Michaelis a une tessiture très impressionnante et son compagnon Ludovic de Berme a un doigté assez extraordinaire. Donc c'est vraiment une expérience presque mystique. On est transporté, je dirais.
Come to the War Game, on va commencer par non pas nos jeux guerriers, mais par un de nos plaisirs habituels, qui est d'entendre la présentation de l'invité par Antoine Guillot. Plaisir sans mélange. Alors,
tadam,
peut-on présenter Ludovic de Berme, qui est venu si souvent? Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous dire?
Eh bien, le nouveau, je ne sais pas, mais peut-être un peu plus synthétique, puisque depuis que vous l'avez reçu la première fois pour Ludologie, l'œuvre s'est développée de façon tout à fait considérable. Donc, je vais me livrer à mon propre exercice de Ludologie,
voilà.
De ludographie. Et je déconseille déjà fortement aux auditeurs de faire l'expérience que j'ai faite hier et toute la nuit, qui est de relire quasiment
tout Ludovic de Berme.
Tout Ludovic de Berme. D'abord parce que l'œuvre est volumineuse, nombre de ces ouvrages dépassent les 300, 400, parfois presque 500 pages. Et surtout parce que ça vous met dans un état émotionnel tout à fait bouleversant. Il est très rare de lire des bandes dessinées, de lire d'ailleurs des livres et tout objet artistique qui provoque un tel état chez le lecteur. Relisant René cette nuit, je me suis retrouvé dévasté. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai encore beaucoup d'autres livres à lire. Mais c'est formidable d'avoir ce sentiment en lisant un ouvrage de bande dessinée. Alors, c'est un monde qui mêle le mythique et l'onirique, qui partage avec avec Cronenberg, la grande question de comment montrer à l'extérieur l'intérieur d'un corps et qu'est-ce que c'est que cette surface qui les sépare. Ce sont des corps en mutation qui se retrouvent là encore synthétisés dans Epiphania, on va y retrouver, où l'animalité a une grande importance. Alors Ludovic Debeurm, les anciens s'en souviennent, on l'a découvert côté bande dessinée parce qu'il était déjà connu comme illustrateur dans de nombreux journaux, et puis il s'était attaqué, ça a dû tout de suite vous titiller, François Angelier, au Jules Verne du Chancelor.
Mais ça n'a rien d'étonnant, puisque Jules Verne du Chancelor, c'est un roman que je recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs, est un roman sur le cannibalisme et le corps en souffrance. Le radeau de la Méduse, and so.
Il y avait eu aussi l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde.
Sans commentaire.
Vous voyez qu'il y a quand même de la continuité, et puis plus tard, il y aura eu les alcools d'Apollinaire. Et moi, je l'ai découvert en 1999 dans un volume déjà extrêmement épais, qui faisait 2000 pages et qui s'appelait Comics 2000. C'était l'association qui avait réuni
On a fait une émission à ce propos, d'ailleurs.
Voilà, de tout ce qui se passait d'intéressant dans la bande dessinée à ce moment-là. Et Ludovic Debeurm avait fait l'étrange histoire d'un homme reclus dans son appartement, dégoûté parce qu'il voyait du trottoir cette masse humaine qui l'angoissait terriblement, alors jusqu'à vomir dans les toilettes, et qui se tranchait la tête. Un premier geste de bande dessinée très, très fort, qui s'auto-décapitait, mais malheureusement, deux têtes repoussées. Il avait beau couper ses deux têtes, en apparaissait quatre. Donc vous voyez la progression de puissance de deux qui fait qu'à la fin, il a un ballon, comme un ensemble de ballons de tête sur la tête, et d'ailleurs, il finit par s'envoler comme ça dans les cieux. Alors, ça, c'est les débuts de Ludovic Debeurm. Alors, il y aura Ludologie et Céphalus chez Cornelius, qui sont plus dans l'exercice de l'autobiographie, de l'auto-analyse, de l'introspection. Et on se disait, à ce moment-là, Ludovic Debeurm est un représentant de sa génération qui pratique l'autobiographie, comme ça commençait à s'inventer en bande dessinée. Et là arrive le choc, l'énorme choc. Un diptyque, Lucille et René. Le René qui m'a bouleversé encore cette nuit. L'histoire de la rencontre entre une jeune fille anorexique et le fils d'un marin-pêcheur picard, alcoolique, qui faisait une échappée et qui était absolument bouleversante et qu'on retrouvera dans René avec d'autres personnages venant après, avec une façon très originale de faire de la bande dessinée à l'époque, c'est-à-dire d'utiliser le blanc de la page comme un espace à la fois mental, onirique, fantastique, fantasmatiques, dans lesquels les personnages, échappant à toute case, se déplaçaient, parfois occupant une page entière et réinventant une façon extraordinaire de faire de la bande dessinée. Alors à l'époque, on le rapproche beaucoup de Topor d'un côté pour la partie française et de Charles Burns pour les influences américaines. Moi, j'y vois des influences qui remontent à beaucoup plus loin, et Ludovic Debeurm a fait des études d'art. Alors dans une école plutôt d'art contemporain, et Ludovic Debeurm est un grand installateur d'art, pour ceux qui ont visité la petite maison de la ferme du Buisson en 2015 et qui ont découvert son travail avec Louis Fang sur la chute de la maison Huchère et ses cheveux qui descendaient du plafond et des murs, c'est une sensation complètement extraordinaire. Et puis il y aura donc entre Lucille et René, il y a ce livre extraordinaire qui est Le Grand Autre aussi, alors là, très grand format,
un concept lacanien, ça, monsieur,
très, très volumineux, et Lacan est là dans Le Grand Autre, les mots s'écrivent de toutes les façons possibles et qui sont jusqu'à des livres dont j'avais parlé ici, qui étaient Trois fils et un père vertueux, encore un diptyque là fait à la gouache,
très récent, là, ouais.
Absolument magnifique chez Cornelius, des histoires de fils qui ont des soucis avec la transmission générationnelle, avec notamment les pères, présentés souvent comme des créatures barbues et hagardes, les bras sans main pendant à même le sol. Et puis Ludovic Debeurm l'a dit, le groupe qu'on vient d'entendre, comment il s'appelle Father Kid. Et tout d'un coup, et bien voilà que dans Epiphania, Father Kid, tout ça se mélange, se rassemble, et qu'on peut avoir deux optiques dans le même livre.
Ludovic Debeurm, c'est vrai, le corps en permanence, c'est un objet de mutation, de germination, de gonflement, d'élongation, le corps en mouvement, mais souvent un peu inquiétant, un peu monstrueux. Et puis, la question familiale, donc c'est les deux axes qui vous semblent déterminants, si vous faites un retour en arrière.
Si je fais un retour en arrière, pas si en arrière que ça, parce que c'est des questions qui sont pour moi très actuelles et qui me traversent en permanence et qui sont à la fois des sujets d'écriture, mais aussi des sujets d'analyse. Pour dire les choses telles que je les ressens, alors elles sont ça peut paraître un peu mystique, mais je me sens réellement habité par un autre corps. Alors, quel est ce corps? C'est un peu la question. D'où vient-il et de quelle façon je peux dialoguer avec ce corps? Et parfois, il se manifeste dans le symptôme et ça se manifeste de manière... on est dans l'ordre de l'excroissance fantasmatique. C'est à partir de ce matériel que j'essaie d'exorciser, de dessiner, de conceptualiser les choses dans mon travail.
Et vous dites que quand il y a un autre corps dans votre corps, c'est-à-dire que vous êtes habité, hanté, non pas par un double, mais par un esprit, un démon, une créature extérieure?
Écoutez, pour dire les choses vraiment de manière très, très simple et directe, je pense que j'ai incorporé, au décès de ma mère, j'ai incorporé définitivement son fantôme. Alors, je ne parle pas forcément d'un fantôme réel, hein, bien qu'on puisse se poser la question, mais enfin, je crois que pour moi, ce n'est pas la question qui se pose, mais... C'est vraiment davantage un pacte ancien que j'ai scellé avec ma mère et qui me tient en vie, mais qui me tient en vie contre avec une monnaie coûteuse qui est celle de l'incorporer et de fait incorporer un mort. Donc ça, c'était une nouvelle question pour moi qui a donné ces trois derniers livres en fait. Un père vertueux, trois fils et Epiphania ont été écrits. Après le décès de ma mère, et d'ailleurs la question, autant dans tous mes autres livres, la mère est présente et le père est absent, autant dans ces trois livres, c'est vraiment la question de l'absence de la mère. Donc c'est à la fois cette espèce de rapport. Donc de là, en fait, découle un double dialogue, enfin un dialogue personnel, interpersonnel avec moi-même. Dans Epiphania, il y a aussi l'idée justement d'ouvrir ce dialogue vers l'extérieur et d'essayer de conjuguer... quels sont finalement, je suis en train de parler de mes peurs, je suis en train de parler de ce qui me réveille la nuit. Et mes peurs jusqu'ici, c'était des peurs parfois comme ça, très, très anciennes, mais aussi je me retrouvais sur des champs de bataille pendant la guerre 14-18, recevant des balles, ayant vraiment terriblement l'impression de les avoir réellement reçues dans ma chair. J'ai découvert à quel point j'avais été choqué, frappé par ces histoires que me relatait mon père via son grand-père. Gazé sur les champs de Verdun. Et puis petit à petit, j'ai réalisé que ces images avaient été colonisées dans mes rêves, malgré moi, par des images peut-être plus actuelles, plus contemporaines et bien plus flippantes. Celles de guerre civile, celles d'attentats, d'immeubles qui s'effondrent. Et donc ça, ces peurs, parce qu'en fait, je crois que ce sont mes peurs qui ont toujours donné envie de dessiner. Je suis l'anti... vous savez, dans ces films américains, il y a toujours un moment où le héros doit vaincre ses peurs pour arriver à transcender sa problématique. Moi, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que je suis assez humble vis-à-vis de ces peurs et j'essaye d'en faire quelque chose et de les questionner. Et la peur de l'apocalypse, de toute façon, je pense que je serais bien trop prétentieux pour imaginer la surmonter. Donc, d'un seul coup, c'est comme si mes peurs personnelles, les plus anciennes et les plus intimes, se retrouvaient parachutées, contaminées par une peur plus universelle, plus globale, qu'on sent tous, qui est présente, je veux dire, à toute heure de la journée, quand on écoute la radio ou la télé, etc. Et Epiphania, c'est la question de quoi faire avec ces deux choses, en fait. Comment elles peuvent se connecter, comment elles peuvent se renseigner.
Que faire avec cette matière noire? Antoine Guillot.
Alors cette question de la possession, moi, m'intéresse beaucoup parce que vous avez une pratique jusqu'à Epiphania et quand on va y arriver, vous allez nous raconter pourquoi ça a pu changer, qui est celle de l'improvisation dans vos récits. Et c'est vrai qu'il est rare, quand on lit une bande dessinée, d'avoir autant le sentiment que les personnages ont une vie autonome. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils vous emmènent quelque part, qui n'est certainement pas l'endroit auquel vous vous attendiez au début du récit, ce qui produit cette même sensation chez le lecteur de ne jamais savoir où on va aller. Combien de livres sont extrêmement prévisibles, les personnages ayant été calibrés pour agir d'une certaine façon et mener le récit là où le voulez. Comment se passe ce moment où le personnage presque s'empare de vous et qu'on a l'impression que vous dessinez presque en état de transe?
Ludovic de Burme.
Je crois que c'est un élément essentiel dans mon travail qui valide en fait la justesse de ce que je suis en train d'élaborer. C'est-à-dire le moment où j'entends quasiment la voix du personnage dans ma tête, qui je ne dirais pas qu'il s'adresse à moi, mais j'entends une espèce d'autonomie et je peux commencer à raconter cette histoire. En fait, ce n'est plus moi qui raconte l'histoire, mais c'est le personnage. Mais c'est vrai, et vous avez raison de le dire, la plupart de mes histoires, sauf peut-être Epiphania, qui a une autre genèse, mais la plupart de mes histoires ont été conçues à travers une improvisation. Il y a toujours au début, comme ça, des pages qui sont simplement dessinées, souvent un personnage qui marche, et j'attends ce moment où le personnage va prendre vie. Finalement, je ne le connais pas encore, c'est une rencontre. Et puis, il y a un moment... alors, bien sûr, quand je viens de raconter cette espèce de doublitude, comme ça, d'état de duplicité intérieure, c'est une rencontre aussi intérieure, et puis... on m'a souvent dit, en lisant Lucile, parfois même une lectrice qui n'avait pas vu mon nom, qui avait été happée par le livre sans lire le nom de l'auteur, pensait vraiment que c'était une femme qui avait écrit ce bouquin, ce qui vraiment me faisait très plaisir. Mais je pense que j'intègre cette partie-là, et c'est elle qui parle à ce moment-là, quoi. Après, ça serait un petit peu simpliste de présenter les choses comme ça, parce que je suis aussi je suis un dévoreur d'histoire, et les gens se confient à moi. Je sais pas, voilà, c'est comme ça, parfois des gens que je ne connais pas m'écrivent de longues lettres et me racontent leur vie. Et quelque part, j'ai du mal à donner de la limite à tout ça, parce que c'est des choses qui me passionnent, toujours des histoires fascinantes, et j'en fais des livres aussi.
Oui, vous pourriez en faire un jour un récit.
Je pense qu'il y a des
sélectionner les meilleures confidences et en faire un album. Alors, Epiphania, c'est un premier tome, il y en aura trois, m'a dit... Dieu qui préside aux destinées de Casterman. C'est un album, alors on parlait justement de la transe et du personnage qui s'impose à vous et que l'on suit sans trop savoir où il va vous mener, qui il est réellement. Là, il y a quand même un exergue qu'il faut mentionner, parce qu'elle n'est pas indifférente. Alors, je citais au départ, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Je vous ai attribué un slogan écologiste qui n'est pas de vous, mais au-dessus, il y a une citation de Gilles Deleuze, donc qui est tirée de Capitalisme et schizophrénie dans le tome 2. Le premier, c'était l'anti-Oedipe, le deuxième, c'est Mille Plateaux. Et je cite le début, « Non pas imiter le chien, mais composer son organisme avec autre chose, de telle manière qu'on fasse sortir de l'ensemble ainsi composé des particules qui seront canines en fonction du rapport de mouvement et de repos. » Donc pourquoi cette citation? Est-ce que c'est la citation qui, elle, a déclenché l'album? Ou est-ce qu'elle est venue après en justification et en validation, mais en écho?
Elle a peut-être nourri l'album, parce que Deleuze et Guattari ont fait partie de choses nourricières et vraiment très importantes pour moi, après Lacan d'ailleurs, c'est pour dire dans l'ordre, quoi, vraiment des grands chocs. Et ici, finalement, ça reprend un peu un principe dans Lucile qui était je parle d'une anorexique, mais c'était surtout parler pour une anorexique. C'était parler... pas à la place d'eux, mais c'était parler pour. Il y avait vraiment cette idée-là, et c'est l'idée qui est chère à Deleuze. Et je pense qu'ici, quelque part, ça parle au nom et à la place de celui qui n'a pas la parole, donc l'animal. Je crois qu'il faut l'entendre, en tout cas, on peut l'analyser d'autres façons. Ce sont c'est un texte qui est multiple et très complexe et dense, mais je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai tenu à l'insérer dans le livre.
Antoine Guillot, donc Epiphania, premier tome. Là, c'est véritablement une histoire structurée en fonction d'un phénomène totalement imprévisible et très difficilement gérable qui survient à la planète Terre et à ses habitants. C'est l'apparition soudaine, après événement d'ailleurs, d'une nouvelle catégorie d'organismes et de créatures.
Mais ce n'est pas tout de suite ça. Voilà. C'est-à-dire que nous commençons par une sorte
tout
de...
tout de suite, comme ça, c'est plus spectaculaire.
Vous allez à l'os directement, voilà. Mais il y a des fausses pistes avant. et ce ne sont pas complètement des fausses pistes, parce que ça commence par un couple qu'on dirait en crise. Elle veut un enfant, il n'en veut pas, il ne se sent pas prêt, et pourtant il en rêve, et qui va partir sur une île, suivre une sorte de thérapie de l'amour, dernière chance pour
avec un gourou assez couple, pittoresque.
Avec un gourou dont on se dit, ça va être l'histoire de cette thérapie sur cette île. Et puis arrive un phénomène étrange, effectivement, des météorites tombent du ciel, suivis d'un tsunami qui emporte tout et, entre autres, et ce n'est pas rien, la compagne de cet homme. Cet homme, je l'ai oublié de le signaler, est guitariste.
Tiens, tiens.
Il est barbu, mais il a les cheveux longs.
Tiens, tiens.
Il a les cheveux longs, ce qui n'est pas totalement le cas pour l'instant.
Ce ne sera plus le cas.
Je présente cette en phase avec notre invité.
De Ludovic de Beurre, mais il synthétise donc une fois que sa compagne a disparu, un peu des éléments masculins et féminins, on en parlait tout à l'heure, barbe et cheveux longs. long. Donc ce n'est pas uniquement la posture hipster du contemporain. Et quand la mer se retire, puisque la mer se retire après tous les tsunamis, apparaissent dans le sol d'étranges homoncules qu'il ne faut pas retirer du sol parce que sinon ils se carbonisent immédiatement à l'air ambiant. Mais si on attend un peu, eh bien, ces homoncules vont devenir de parfaits petits enfants qui grandissent très vite et qui ont des particularités animales. Alors tout cela est très écrit, très raconté, parce qu'il y a un changement majeur dans la pratique de Ludovic de Boerme avec ce nouveau livre. C'est que le scénario a été écrit avant, qu'il y a eu du découpage avant, et surtout qu'au départ, ce n'était pas un scénario que vous prévoyez pour vous.
Ludovic
de Boerme.
Voilà, vous savez, dans la vie des dessinateurs, parfois il y a des hauts et des bas. J'étais dans une période financièrement compliquée et je n'avais pas particulièrement envie de refaire de l'illustration de commande. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? A priori, écrire des scénarios, je pense savoir écrire des scénarios grand public. J'ai en général pas envie de dessiner, donc ça reste des choses dans mes tiroirs. Donc je me suis dit, voilà.
Vous n'avez pas envie de les dessiner?
Parce que je pense que c'est difficile de concilier cette intériorité symbolique qui est la trace de tous mes livres et le grand public. On parle directement à la psyché du lecteur et en général se sent contaminé. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient vous réveiller la nuit, quoi. C'est pas des choses évidentes. Donc il faut des personnes averties qui ont envie de se confronter à ce genre d'écriture. Là, il y a le prisme du genre qui est quand même une sorte de filtre et qui permet de peut-être au lecteur de garder une certaine distance, même si finalement j'aborde les mêmes thématiques qu'autrefois. J'écris ce scénario en imaginant le faire dessiner par quelqu'un d'autre, sans avoir quelqu'un de précis ni un éditeur en tête. À ce moment-là, c'est il y a 4-5 ans maintenant. Et puis quand j'ai eu terminé le scénario, je me suis dit, mais en fait, ce scénario me plaît beaucoup. Il y a toutes mes thématiques anciennes et en plus, il y en a des nouvelles, peut-être plus politiques, engagées, que je sens de plus en plus nécessaire de faire advenir dans mon travail.
Qui commençait à poindre déjà dans Un pervers tueux et Trois fils. Hein.
Absolument. Et du coup, j'ai pas eu du. Il s'attachait à moi, en fait, ce scénario. J'ai pas du tout eu envie de le dessiner, d'autant plus. Enfin, de le faire dessiner, d'autant plus que j'imaginais que mon dessin, ou peut-être l'étrangeté que je n'arrive pas de toute façon à polisser dans mon dessin, allait amener un pas de côté par rapport au scénario et faire que finalement on soit à la fois dans un récit comme ça, j'espère, haletant, et en même temps qu'on sente qu'il y ait quelque chose d'autre qui se raconte derrière.
Alors parmi les cases saisissante dans ce récit, de ce premier tome d'Épiphania, Ludovic de Boerme, il y a d'abord le tsunami qui est dressé comme un copeau, une sorte de, carrément comme une montagne qui s'apprête à avaler le petit îlot. Mais la manière dont vous l'avez dessiné, vraiment fait froid dans le dos, parce que on oublie l'eau, on a l'impression que c'est une main qui se referme, que c'est quelque chose de compact, c'est pas du tout liquide, donc ça crée un sentiment d'angoisse. Et en dessous, il y a un peu les personnages sont en fuite avec le tsunami. À l'arrière-plan, on a l'impression que c'est une toile de Poussin. Donc c'est plutôt le déluge, on pense au déluge, on pense à une scène un peu biblique, mais un biblisme un peu dénaturé. Puis alors, Antoine a raconté effectivement le scénario. Il y a cette très étonnante case qui est en bas à droite, comme le moment à suivre, qui montre justement l'émergence de la créature du sol. Et alors, jusqu'à présent, on voyait que le sommet de son crâne, ce qui fait que on pouvait le confondre avec un animal, un champignon ou une végétation quelconque. Et là, brusquement, elle ouvre les yeux. Et là, c'est une case absolument effrayante.
Oui, mais parce qu'une des choses que raconte ce livre, hormis les questions politiques et sociétales, on pourrait dire, c'est aussi comment on devient un père. C'est ce regard qui est envoyé par cette tête qui émerge du sol et qui est mise en regard, pour le coup, avec le regard de l'homme sur elle, alors qu'il s'apprêtait à la détruire à coup de pelle.
Mais voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est juste avant le coup de pelle.
Et absolument saisissant. Et on aura ensuite un accouchement opéré par l'homme de la terre, c'est-à-dire qu'il va tirer à lui avec force ce petit être qui s'avérera être un petit garçon aux pattes de faune, justement, en tout cas qui évoque à la fois le renard, le lapin, peut-être, en tout cas qui a une animalité qui vient de ses jambes et de ses oreilles. Et surtout, il y aura une scène de bain que j'ai trouvé formidablement dessiné, parce que seul quelqu'un qui a déjà baigné un nourrisson peut dessiner ça, sachant où poser les mains exactement, derrière la tête, et le plaisir de contempler ça. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exercice de ludologie, il y avait beaucoup d'histoires d'enfants et de filles et de fils auparavant. Là, c'est la première fois que je vois un regard de père dedans. Alors, je ne vais pas vous demander de rentrer dans des considérations biographiques, Ludovic de Burme, mais on sent que vous aviez envie de raconter ça.
Ludovic de Burme.
Alors, je crois qu'un père vertueux, le livre précédent, parlait de ma position de fils et, comment dire, sans faire de la peine à mon père qui écoute forcément cette émission. voilà, j'avais des choses à régler. Et en même temps, je tiens à dire, c'était le principe d'un père vertueux. Dans le titre, on entend un père vertueux, on entend aussi un père vert.
Un perverti.
Un perverti, un pervers qui tue eux. Enfin voilà, on peut aller loin. Je me mets pas complètement à l'extérieur de ce personnage qui était aussi barbu, qui me ressemblait, etc. Et donc j'avais, je pense, des choses à régler avec une espèce de paternité symbolique, etc. Ces choses, d'ailleurs, ça en fait un livre assez, assez dur, assez terrible sur le rapport à la paternité. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, effectivement, c'est mon regard de père dont j'ai eu envie de témoigner. Alors, j'aime bien la façon dont ça... Moi, je n'ai pas vécu les choses aussi difficilement. Quand mon enfant était dans le ventre de sa maman, je l'aimais déjà. Et ici, là, on parle d'un homme qui n'est pas supposé aimer son enfant. Il a envie de le tuer, mais il découvre...
Enfin, dès le début, il rêve de lui, et c'est presque le rêve qui a suscité, voilà, qui a suscité cette naissance.
C'est sûr, mais c'est quand même un cauchemar. Hein. C'est des cauchemars, des apparitions quand même monstrueuses. C'est un problème même dans leur couple. Mais toutefois, il y a cette espèce d'amour inconditionnel qui surgit à travers d'abord le regard et ensuite la précarité de cet enfant qui sort de cette espèce de matrice. On pourrait parler du grand autre, là, pour le coup. Mm-hmm. Effectivement, il l'accouche de la planète, son enfant. Et devant cet enfant qui est en train de mourir parce qu'il est sorti trop tôt de Terre, il réalise qu'il est la seule personne à ce moment-là à pouvoir le sauver. Et ça ne fait plus aucun doute qu'il doit s'en occuper.
De Burme, commentaire là, puisque vous êtes.
J'entends Tears de Django. Là, j'ai l'impression d'entendre le violon de Stéphane Grappelli. Je connais cette version, mais je suis pas sûr à 100% à ce que ce serait avec Philippe Catherine. Je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises.
On évoquait, Antoine Guillot, tout l'univers de la paternité, de la famille. Alors l'autre volet, si j'ose dire, d'Epiphania, c'est la question sociale, puisque ces mixed bodies, ces enfants germés de la terre, qui se carbonisent au contact de l'air, mais que certains, qui, certains réussissent à survivre, eh bien, posent des problèmes après à la communauté humaine traditionnelle, et des tensions apparaissent, et on voit apparaître aussi les chapeaux coniques du Ku Klux Klan, puisqu'ils génèrent des phénomènes de racisme, d'intolérance, et qu'il faut les protéger, souvent difficilement.
Alors, c'est ce qui est très passionnant dedans, c'est qu'on est dans une histoire, certes fantastique, mais très concrète et presque quotidienne, par moment. Ces enfants sont trop nombreux pour qu'on puisse faire comme s'ils n'étaient pas là. Sauf qu'ils ont des caractéristiques physiques qui les différencient immédiatement des enfants qui étaient là avant, c'est qu'ils ont tous des caractéristiques animales, ce sont les mixed body. Donc je parlais tout à l'heure de comment mixer l'intérieur et l'extérieur du corps. Là, la part animale de chacun se voit, s'affiche à l'extérieur, et mais ces enfants, il faut bien les intégrer. Alors on a le choix entre les écoles pour mixed body ou alors les mettre dans des écoles normales, c'est ce que choisit le père de cette histoire. Il ne voit pas pourquoi il n'irait pas dans l'école où lui-même avait été enfant. Alors, double problème, en plus, ces enfants grandissent très vite. Leur corps se développe beaucoup plus rapidement. Mais donc, ça crée des problèmes aussi simples que comment fait ce petit garçon pour faire son anniversaire. Là, on a une scène bouleversante qu'on a tous vécue, plus ou moins selon notre degré de sociabilité enfant, c'est-à-dire organiser un anniversaire et puis attendre que les invités arrivent et ils n'arrivent pas. Voilà, ce moment terrible. Et puis, il y a quand même l'amitié avec une jeune fille de l'époque, mais vous poussez ça dans ses conséquences sociales jusqu'au problème, effectivement, que ça va poser à la société. Une fois que ces personnes grandissant, ayant beaucoup de force, se retrouvent l'objet de ratonnades et autres pogroms de la part de ces êtres cagoulés qu'on a déjà souvent vus chez vous dans des livres précédents, décident de se prendre en main, de se révolter, et se posent la question là qui est celle qu'on a pu voir dans nombre de film fantastique d'ailleurs, c'est quand on est différent, qu'est-ce qu'on fait? On s'intègre ou on part en guerre?
Ludwig de Berme.
Quand on est différent, est-ce qu'on s'intègre ou est-ce qu'on
part en guerre? On fait la guerre.
Les deux. D'abord, je pense que, comme vous le disiez très bien, ça parle à la fois de la différence intérieure et autant que de la différence de l'étranger dans la société. Et moi, c'est toujours ce parallèle que j'essaye de garder ici. C'est pas, il s'agit pas de faire un pamphlet politique. Pourquoi pas, hein, mais je pense que la bande dessinée a un autre, enfin, en tout cas l'art a un autre angle à apporter que porter un regard trop politisé, trop directement politisé, même si j'ai mes opinions, il ne s'agit pas de les divulguer insidieusement. L'idée, c'est de réfléchir autour de ça et surtout de faire vivre une expérience au lecteur, et moi-même à travers aussi ce livre, vivre cette expérience et ces questionnements. Et donc, c'est la véritable question qui va se poser, notamment dans le second tome, c'est l'intégration ou la désintégration, parce que, en fait, en réalité, je vais essayer de pas spoiler, mais on va sur des questions très contemporaines liées au terrorisme, puisque ces épiphanianes, comme ils s'appellent eux-mêmes, et mixed body, c'est le nom terrible qu'on a bien voulu leur donner, eux, ils se sont nommés ainsi épiphanianes, ont une espèce de pulsion de mort envers l'espèce humaine, une pulsion terrible qui les conduit à s'opposer à leur, en l'occurrence, ce petit Koji et donc à son propre père. Que vont-ils faire de cette pulsion? Vont-ils sombrer dans l'obscurantisme, dans le terrorisme? Vont-ils éradiquer l'espèce humaine ou vont-ils essayer de trouver une autre façon? Est-ce que l'intégration est possible ou y a-t-il une autre façon de... Voilà, c'est la vraie question du second tome. Après, si je raconte trop, je raconte tout, mais donc...
Mais le titre, évidemment, n'est pas choisi au hasard.
Epiphania, c'est la révélation de la vérité.
C'est la révélation dans le corps. Mmh. C'est-à-dire, voilà. c'est vraiment la naissance de Dieu dans un corps humain. Et on est, d'ailleurs, vous reprenez à un moment une iconographie tout à fait chrétienne. Enfin, à la place de la Vierge Marie, on aurait ce père chevelu et barbu, qui est donc à la fois la Vierge Marie, puisqu'il a eu un enfant finalement sans acte de chair, et Jésus avec un geste vaguement chrétien, tenant ce petit faune dans les mains, qui nous renvoie là pour le coup à une mythologie beaucoup plus ancienne et païenne qui est la mythologie grecque. Donc cette dimension du sacré, vous la vouliez profondément.
Oui, j'ai mis effectivement plusieurs symboliques pour qu'on, peut-être qu'on, en tout cas ça nous parle inconsciemment ou alors très consciemment, le geste qui représente la Trinité dans la main du Père, le fait qu'il soit rouge et bleu, le terrestre et le céleste, et puis cette position effectivement de la Vierge à l'enfant. Ça m'amusait aussi, c'est l'un des seuls endroits où le Père a les cheveux lâchés, parce qu'il a beau avoir les cheveux longs, ses cheveux sont toujours attachés. Donc là, il est vraiment comme ça dans sa doublitude, son ambiguïté de père-mère. Et puis, il est posé sur un ampli, ce qui peut sembler trivial. Mais je pense que c'est pas tout à fait un hasard, si j'y réfléchis bien. Je pense que quand même, la bande dessinée, l'art, c'est une façon d'amplifier. C'est un amplificateur d'émotions. Donc voilà, il y a une espèce de synthèse. Alors pourquoi le sacré ? Pour plein de raisons. D'abord parce que je crois que j'ai été baigné à la quasi-folie d'une... et en même temps, c'était absolument génial, d'une grand-mère vendéenne qui m'a initié aux idées du grand et du petit Albert, qui m'a parlé... de spiritisme, d'esprit frappeur. J'étais très tôt complètement confronté à toute cette imagerie, mais qui était plus qu'une imagerie. C'était pour elle, c'était réel. Elle sentait des odeurs de mort, quoi. Il y avait quelque chose qui était palpable. Et moi, enfant, petit enfant, j'ai baigné dans cette à la fois mélange de catholicisme et puis de superstition. Donc forcément, il y a toujours une atmosphère de sacré qui peut ressortir, mais aussi parce que ce livre, comme le précédent, parle de cette du moment où le religieux tombe dans son extrémisme, dans son excès. Et donc, ça parle de ça, forcément, il faut que je parle de cette vision, et qui là m'intéresse plus sur le côté occidental.
Et puis, il est sur un ampli aussi, parce que ce livre est très musical. Alors, il ne l'est pas sous la forme de l'improvisation free jazz, comme pouvaient l'être vos précédents. Là, vous l'avez dit, donc, scénario écrit, découpage. Vous allez me démentir après. Mais, et donc, la structure de la case, qui avait déjà été expérimentée ici et là précédemment, mais qui là est quasiment systématique.
Avec un hommage à Hergé en ouverture.
Avec le principe du gaufrier, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette structure régulière, mais qui est aussi une structure rythmique. C'est presque à la fois une tablature de guitare, ça pourrait être des accords qui sont affichés page par page, mais avec ce jeu, effectivement, avec la contrainte rythmique propre à la case de bande dessinée, ce qui est très nouveau chez vous.
Ludovic Deburn.
Oui, ça c'était presque un postulat au départ. Je voulais presque même faire un livre carré, donc avec quatre carrés à l'intérieur du carré, et faire que lorsque j'avais besoin d'un plus grand espace, les quatre carrés se réunissent pour faire un nouveau grand carré. Donc vraiment quelque chose comme ça de très arrêté, très conceptuel. J'ai un peu assoupli la formule, mais enfin je m'en suis tenu. Je tiens quand même à préciser que c'est un véritable carré, et que souvent, c'est-à-dire à l'origine fait 10 par 10, les gaufriers dans la bande dessinée ne sont pas de réels carrés, ils sont souvent un peu écrasés. Moi, vraiment l'idée, c'est de à travers ce cadrage, parce que plus que le carré, le problème, c'est le cadrage, c'est de témoigner de ce qu'il y a autour du cadrage, c'est-à-dire de ce qu'on ne voit pas. Et comme je parle d'un monde supposé réel, enfin, il y a en tout cas cette idée-là, le fait de cadrer à l'intérieur me permet de parler de ce qui n'est pas montré, en fait. Contrairement aux vignettes que j'utilisais avant, qui étaient finalement des vignettes refermées sur elles-mêmes et qui parlaient d'une intériorité.
Epiphania de Ludovic Deburn, tome 1, c'est aux éditions Casterman. Extrait de l'album In Ear Park du groupe Department of Figel.
Un de mes groupes fétiches.
Voilà, un de vos groupes fétiches.
Daniel Rossen.
Ludovic Deburn, on passe maintenant aux chroniques et on ouvre avec vous Sixtine Audebert, exposition donc Pascal Somat chez Art Factory à Paris.
Alors, l'exposition s'appelle Pop Collection. Donc vous reconnaîtrez dans ce titre le titre de Woolsey Rock Collection, qui était lui un méchoui plutôt mainstream. Or là, le fil, que dis-je, la corde de guitare qui sous-tend cette exposition, eh bien c'est l'authentique rock'n'roll spirit. Ce joli mot d'esprit cache en fait une collection d'objets qui sont issus à la fois de la culture pop et de l'art brut, naïf, singulier, etc. Puisque, comme le souligne le propriétaire de la collection, Pascal Somade, ces étiquettes n'ont en fait rien de scientifique et ne permettent surtout pas de rendre justice de la singularité de la démarche de l'artiste, de l'individu à l'origine de l'objet, puisqu'il ne s'agit pas toujours d'artiste. Et quel foisonnement, point d'exclamation ! On se trouve devant un incroyable fatras d'œuvres et d'objets qui vont de l'ex-voto du type qui va remercier naïvement le bon Dieu pour sa moto ou sa petite amie, en lui offrant une espèce de canevas tressé avec des couleurs d'acide. Et ça va jusqu'aux faïences et retables ornés à la gloire d'Elvis, donc du King. Et c'est un peu finalement comme pénétrer, disons, l'intimité d'un temple psychédélique où les significations ondoient, coulent comme une cascade de reflets entre les différents fétiches et les différentes reliques. Donc il y a vraiment quelque chose de l'expérience mystique du musicien qui guide dans l'intellection de ses œuvres. Et la réunion de ces objets, elle n'est pas seulement intéressante pour ça, mais aussi parce qu'elle suggère finalement une sorte de rapprochement entre des choses qui sont a priori pas évidentes, c'est-à-dire le trait au sens de coup de crayon ou pinceau d'un artisan comme le peintre des couvertures des gens de l'Aïr qui sont exposés au sous-sol de la galerie, donc vous savez, les romans de gare et autres pulpes. Et le peintre d'enseigne ghanéen, ce peintre multifonction qui va faire des affiches destinées à la pub dans les vidéoclubs des séries Z locales ou exportées. Donc tout cela peut sembler, je le disais, assez hétéroclite, mais tous renvoient comme une espèce de portrait chinois à l'instance collectionneuse, donc ce Pascal Somade, ce petit homme avec un look de loubar rangé, une banane poivre et sel qui est toujours impeccable et un accent chantant. Un homme donc initié aux marges de la culture par son amour de la simplicité et de la franchise populaire dans ce qu'elle a de plus éclatant. Et c'est jusqu'au 17 novembre à la galerie Arts Factory. Et pour la soirée de fermeture, il y aura également un concert de Pascal Somade avec un acolyte que je ne connais pas, mais que vous allez tous découvrir ce soir-là. On vous y invite. Et donc, 17 novembre, la Galerie Arts Factory à Paris.
Merci. Sixtine, Antoine, vous êtes venu avec... Tiens, ça m'étonne, ça me surprend de vous. Le dernier blotch.
Ça faisait longtemps, mais est-ce vraiment le dernier blotch? C'est ça voilà. La question. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Ludovic de Burme, mais blotch, la bande dessinée, ça le laisse perplexe, avoue-t-il dans le texte d'introduction de ce nouveau livre. Au fond, je n'y comprends rien, dit-il. Et quand on a ces moments de doute, eh bien, le mieux, c'est de faire comme Picasso avec les Ménines de Velázquez ou le Déjeuner sur l'herbe de Manet, c'est de se confronter aux grands anciens et de reprendre, de redessiner des planches. Alors on a, dans ce livre très grand format, au format d'une planche de bande dessinée, 30 planches de grands dessinateurs, des planches qui ont marqué Blotch dans son histoire personnelle. Et qui sont rangés d'ailleurs par ordre alphabétique de naissance. Donc on commence par Pelos qui est né en 1900 et qui faisait les pieds nickelés, et on finit avec Daniel Goussens, né en 1954, Georges et Louis. Sauf que, alors c'est déjà pas mal de redessiner, mais c'est là qu'on rentre dans le titre de ce livre qui est Variation, et c'est Variation vraiment au sens jazzman de la chose, ou comme le faisait Mozart avec À vous dirais-je maman, ou tous les musiciens qui ont repris des œuvres précédentes pour les réinterpréter, et on est donc dans la réinterprétation. Et ça, c'est absolument fascinant. D'abord parce que on a l'impression de voir une planche copie conforme, mais en fait, il y a un début et une fin qui sont synthétisés parfois d'autres pages, et puis surtout tout le plaisir dans la variation. Alors, la beauté de ce livre aussi, c'est que on ne met pas en regard la planche d'origine, on joue sur notre propre mémoire visuelle. Est-ce que quand il va redessiner de Hergé, par exemple, ce célèbre moment de vision dans les 7 boules de cristal où on annonce à quelqu'un que son mari est en train de mourir et la femme quitte le musical terriblement, est-ce que c'était exactement comme ça? Alors on s'en rend compte assez vite que non, parce que si vous prenez cette planche de Franquin, un gaffeur sachant gaffer, paru dans le journal de Spirou, eh bien là vous vous rendez compte que Blotch a interverti les rôles, c'est-à-dire que Gaston Lagaffe joue le rôle de monsieur de Messmaker et inversement, donc ça produit déjà un effet assez extraordinaire. On a ce moment génial de Angel Face, le moment où Angel Face va perdre sa face d'ange chez Blueberry parce qu'il a la tête jetée dans la fournaise de la locomotive. Eh bien, en fait, on a une inversion des sexes et des races et qui fait que Blueberry va être une jeune femme noire absolument magnifique et sortie de la Blaxploitation des années 70, va se battre avec une accorte blonde et c'est la blonde qui va être jetée dans le feu. Donc tout le plaisir pour Blutch d'abord, et c'est une pratique qui lui permet de mieux comprendre comment on se fait de la bande dessinée, comment ces pages ont été conçues, mais comment lui-même peut se les réapproprier à sa manière et finalement mettre à la fois son plaisir du dessin et sa propre pratique à l'épreuve du feu, comme Angel Face se faisait parfois brûler la figure. Donc pour ceux, on en avait vu découvertes quelques-unes à au Festival Pulp, hein, je crois que c'était l'an dernier, mais les voir comme ça, ces planches qui finalement forment une sorte de récit autonome sans début ni fin, mais nous replonge à la fois dans l'histoire de la bande dessinée et dans la psyché de Blutch et sa pratique, c'est absolument extraordinaire et magnifique.
Ludovic de Berme, quel rapport vous avez, vous, avec ces variations, ces réinterprétations ? Vous en faites ?
Non, pas du tout. Alors, Blutch, c'est un historien de l'art pervers et fou. Il avait fait ça avec Total Jazz, avec le jazz. C'est-à-dire qu'il... C'est un exégète, il connaît tout et puis il triture et il reformule les choses. Effectivement, moi, j'ai pas ce rapport-là. Je suis peut-être trop obsédé par mes propres questionnements pour arriver à m'occuper de ceux des autres. Mais c'est très beau. J'avais vu les planches à l'exposition Apple.
Un jour viendra peut-être que Ludovic de Berme, donc, qui est pour l'heure l'auteur avec nous d'Epiphania chez Casterman, se livrera au doux plaisir de la variation. Cette émission s'achève bien évidemment avec le maître Beer.
Été 1935. Charles Gouillette, 33 ans, est arrêté pour avoir illégalement utilisé les services postaux américains. Il est accusé de diffuser des photographies de femmes puissantes et autres sujets spéciaux. Selon les critères du juge, ce matériel relève de la pornographie. Le prévenu plaide coupable et est emprisonné dans un pénitencier fédéral pendant un an et un jour. L'homme vient du milieu forain, y a dirigé des numéros de lutte féminine et développe tout un commerce de vente de tenues exotiques, lingeries et accessoires pour les danseuses de burlesque. Depuis 1931, il s'est forgé tout un mailing grâce aux encarts publiés dans le London Life, magazine léger réputé pour ses petites annonces fétichistes. Il propose bientôt des chaussures à hauts talons et des cuissardes fabriquées en Allemagne, des corsets du label français Yves Richard et un grand nombre de photographies. Collectionneur, nous avons des costumes étudiés pour tous les goûts, affirme sa publicité. À sa sortie de prison, le businessman devient officiellement un fabricant de chaussures, ouvre une boutique vers 1942 sur la 45e rue, puis semble définitivement se spécialiser dans les costumes de music hall. Ses clientes sont des effeuilleuses, la presse le baptise le roi du string. Mais la prison n'a pas calmé les ardeurs obsessionnelles de Gouillette. Il deal encore, en toute discrétion, des chaussures à talons vertigineux allant jusqu'à 17 cm et fabrique des accessoires de lingerie sur mesure. Il continue certainement de vendre ses photos érotiques de femmes cuissardées. La Gazette de la Police Nationale est l'une de ses lectures favorites. Il y cherche des clichés de policières pratiquant des techniques d'autodéfense. Lui-même a commis jadis un fascicule de jiu-jitsu pour viragophile. L'éditrice de la Gazette, Edith Farrell, agrégée de psychologie, a l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre le potentiel commercial des photos que lui adresse Gouillette. Dans une brochure stimulante, « Charles Gouillette, Godfather of American Fetish Art », Richard Pérez Seves rassemble les images et les éléments biographiques de ce pionnier fantôme dont les photos influencèrent des artistes aussi importants que John Willie, son client depuis les années 30, que des marchands comme Irving Claw, spécialiste du bondage. Les fantasmes sont des passions opaques. Eric Stanton visita une fois le magasin de Gouillette et fut stupéfait d'y découvrir, dans l'arrière-boutique, un véritable ring de boxe. Grandeur nature.
Eh ben vous pourrez d'ailleurs retrouver le Maître Beer Grandeur Nature ce week-end à Lausanne. J'y serai également dans le cadre du LUF, le London Underground Film Festival, où nous présentons une carte blanche de plusieurs films voués évidemment aux 20 ans de Mauvais Genre. Je rappelle les sujets de ce soir. Epiphania de Ludovic de Burme chez Casterman, c'est un tome 1. Bludge Variation, c'est aux éditions d'Argo. Et puis évidemment, encore et toujours, l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres de Céline Dussinet, c'est chez Nada Sixtine.
Collection à la galerie Arts Factory,
voilà,
jusqu'au 17 novembre.
À Paris. À ne pas rater, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claude Nior, Siam Boutata, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnay, Antoine Guillot, Sixtine Audebert, Christophe Bire et François Julier vous remercient d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec l'univers de Henri-Georges Clouzot. D'ici là, bonne nuit à tous, à l'écoute de France Culture, bien évidemment.